Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir le président Yvon Gattaz pour la parution de son nouvel ouvrage « Les ETI, les champions cachés de notre économie, 30 histoires d'entreprises de taille intermédiaire » qui vient de paraître donc chez François Bourin, éditeur. Un ouvrage pour 25 euros. Cher président, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous accueillir sur notre antenne. Alors, vous traitez dans votre nouvel ouvrage d'un sujet à la fois sensible et d'actualité, c'est-à-dire la compétitivité tout simplement de l'entreprise France.
Bien sûr.
Alors, en fait, la France occupe à travers ses grandes entreprises une place très honorable dans le palmarès mondial. C'est Major, Total, L'Oréal, EDF, Suez, Lafarge. N'ont aucun complexe dans la grande compétition internationale au plan planétaire. Toutefois, et de façon paradoxale, cette position ne saurait masquer une forme de faiblesse congénitale des performances internationales des petites et moyennes entreprises. Tout se passe comme si ce socle de PME, pourtant fertile et dense, n'arrivait plus à faire naître de nouvelles vocations pour rejoindre le groupe des grandes entreprises dans la compétitivité mondiale. C'est selon votre expression, ce no man's land tragique entre petites entreprises et grands groupes qui expliquerait notre faible compétitivité par rapport à nos amis notamment allemands ou bien nos amis américains qui sont organisés différemment. Et qui, par exemple, pour les Allemands, il y a 12 000 entreprises intermédiaires contre 4 600 en France. Alors, relever le défi pour nous Français passe donc par le développement des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, ce chaînon manquant de l'économie française, comme vous le dites de façon remarquable. Ces entreprises donc de taille comprise entre 250 et 5 000 salariés, dont la reconnaissance, vous le soulignez dans votre ouvrage, a été accélérée en mars 2008, par le président de la République lui-même. Alors, cher président Yvon Gattaz, comment expliquer cette naissance difficile des ETI en France et quels sont les enjeux qui sont attachés à cette situation ?
Eh bien, cher ami, effectivement, c'est un petit peu un roman policier. D'ailleurs, le titre en est un. Les entreprises champions cachées oui, de notre économie sont cachées. Alors, on croit qu'on va trouver l'assassin. Effectivement, c'est un roman policier, c'est vrai. Comment se fait-il que la France ait pu ignorer pendant des décennies ces champions cachés qui sont à la fois, il faut bien le dire, des entreprises performantes, c'est-à-dire des entreprises innovatrices, exportatrices, investisseuses et de ce fait embaucheuses? Ça paraît invraisemblable et c'est malheureusement vrai. Pendant le même temps, les autres pays, vous l'avez signalé, les États-Unis avec leur medium size, les Allemands avec leur Mittelstand, et tous les pays modernes avaient reconnu cette catégorie d'entreprises qu'on appelle en France maintenant ETI, ça veut dire entreprise intermédiaire, entreprise de taille intermédiaire. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas nous qui avons trouvé cette appellation. Elle a été trouvée en dernière minute au moment du vote de nuit de la loi LME le 4 août 2008. Et on nous a demandé à 21h si nous étions d'accord sur cette appellation. Vous voyez qu'on est encore en plein roman policier et nous avons été obligés de dire oui, sinon ils retiraient l'amendement.
Et c'est ce qui a remplacé le barbarisme des grosses PME alors.
Voilà, alors qui est un barbarisme. Les grosses PME sont un énorme barbarisme. Hier, un grand président d'une entreprise française a dit devant 400 chefs d'entreprise « Ah, les grosses PME françaises sont les meilleures, il a fallu que j'intervienne pour lui expliquer que grosses PME, c'était le pire des barbarismes linguistiques, puisque littéralement, ça veut dire une grosse, petite et moyenne entreprise. Elle est vraiment bien définie, n'est-ce pas ? Bon. Donc, non pas sur ce horrible barbarisme, mais c'est vrai que le mot PME a été étendu de façon un peu démentielle depuis sa création en 1936, où on avait commis l'erreur de rajouter la lettre M sans trop savoir ce qu'elle voulait dire et qui plus tard a signifié moyen, si bien que beaucoup de gens de bonne foi ont cru que cette catégorie pouvait représenter simultanément les toutes petites et les petites entreprises, ce qui est normal, mais également ces fameuses moyennes, ce Mittelstand, alors que ce n'était pas le cas. Si bien que moi je me suis battu 32 ans, puisque lorsque j'avais créé le mouvement éthique le 1er janvier 1976, je l'avais volontairement baptisé « Mouvement des moyennes entreprises éthiques », espérant que cette catégorie moyenne entreprise serait reconnue. Raymond Barre me l'avait promis, même le président Mitterrand, plus tard, dans un autre contexte, me l'avait également promis, puis Jacques Chirac. Finalement, comme il existait une terminologie vague, ambiguë, etc., tout le monde reculait. Et il a fallu cette position courageuse du président Sarkozy pour dire, écoutez, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un Mittelstand français, un vrai de 250 à 5000 salariés, qui a été reconnu après par l'Europe, et maintenant nous existons, c'est gravé dans la pierre, mais malheureusement, et vous l'avez également très bien dit tout à l'heure, nous ne sommes que 4600 ETI performantes en France, alors que l'Angleterre en a quelques 10 000, et l'Allemagne quelques 12 000, et là, ça mérite quelques explications.
Tout à fait. Alors, je rappelle très très brièvement, mais est-ce bien nécessaire, que vous êtes le créateur en 1952 avec votre frère de l'entreprise Radial, qui elle-même est donc une ETI, qui est dirigée aujourd'hui par votre fils Pierre, que vous avez été président du MEDEF, alors ce qui était, ça ne s'appelait pas le MEDEF à l'époque, mais c'était son ancêtre, on va dire.
Patron des patrons.
Le patron des patrons, de 81 à 86, et que vous étiez le fondateur en 95 de l'ASMEP, devenu ASMEP ETI, et vous êtes bien entendu membre de l'Institut, ce que nous savons. Alors, comment donc expliquer cette situation,
quoi? Cette ignorance,
le maillon manquant.
Le maillon manquant, ouais. Comme dit M. Christian Stoffaes, on avait un chaînon manquant dans l'économie française pendant des décennies, malgré les efforts d'Yvan Gattaz. Alors, comment l'expliquer? Je crois que c'est un petit peu la confusion avec ce sigle un petit peu confus, cette nébuleuse de PME qui a cru que finalement on n'était pas représenté, mais on l'était peu ou prou, etc. Bon. Alors, on a cru qu'en étendant un peu vers le bas la catégorie grandes entreprises et en remontant un peu vers le haut la catégorie des petites entreprises, on pouvait pallier la déficience de cette catégorie, cette troisième catégorie. Car dans tous les pays du monde, il y a trois catégories. Il y a les petits, les gros et les moyens.
C'est ça.
Nous, on s'est débrouillé pour en avoir quatre, puisqu'on a les très petits. On a les PME qui sont les petits. On a maintenant les ETI qui sont les moyennes, les vraies moyennes, et puis les grandes, bien entendu, reconnues dans tous les pays du monde. Alors, il y a peut-être une deuxième raison plus philosophique et plus profonde, et peut-être sociologique, qui est la suivante. Finalement, quand on regarde bien les Français, et les gouvernements français, et les parlementaires français, personne n'aime tellement les gros. Il y a une méfiance des gros, et de ce fait même une méfiance de la croissance. Regardez, le club de Rome, c'est quelques clubs de décroissants, nostalgiques du passé et des diligences. C'est très français, ça. On aime les petits, j'appelle ça le culte de l'ourson. On aime le petit ourson pelucheux, aux yeux larmoyants, qui mérite assistance et qu'on maintient sous la tente à oxygène gouvernementale. On aime protéger les petits et même, on aime qu'ils restent petits et que ces oursons ne deviennent pas ce méchant ours qui dévore les brebis dans les Pyrénées. Donc, ce culte de l'ourson est sympathique, mais d'une extrême gravité sur le plan économique. Alors qu'au contraire, vous le savez, en Allemagne, c'est la croissance, la croissance, la croissance. Moi, j'ai créé ma filiale radiale en 1969 en Allemagne, à Francfort. Et la première chose qu'on m'a dit lorsque je suis arrivé à Francfort, « Monsieur, est-ce que votre entreprise va grandir et va entrer dans le Mittelstand ?» J'ai dit « mais oui ». Nous allons construire une usine, nous allons grossir. Et tout est fait là-bas pour que les entreprises grandissent. Alors qu'en France, il n'y a pas tellement d'incitation fiscale ou sociale ou administrative à la croissance. Il y a une grande protection des petits, des malades, des infirmes. La tente à oxygène gouvernementale fonctionne assez bien. Mais cette protection des malades est un petit peu antinomique
avec
de la croissance elle-même. Et l'incitation, par exemple, américaine à la croissance est très forte dans tous ces domaines.
Je vous cite, parce que vous avez une très belle plume, « Le culte bien français de l'ourson, nos compatriotes sont de grands sensibles, par une sorte de maternage protecteur et spontané, ils adorent les oursons, petits, tout petits, au duvet pelucheux, au regard implorant, mais il souhaite que cet ourson reste petit.
Alors oui, c'est une des raisons sociologiques ajoutées aux autres. La place était en partie prise par les PME. Enfin, tout ceci, c'est le constat que je fais avec 32 ans de recul, puisqu'il m'a fallu 32 ans pour faire reconnaître les ETI. Mais enfin, maintenant, grâce au président de la République et au gouvernement actuel qui est très impliqué, tout le monde est tout à fait pour. On parle beaucoup des ETI.
C'est ça. Et on a compris que c'était le grand défi pour retrouver une place à la hauteur de nos ambitions. Et donc, vous décrivez, alors peut-être on va commencer par recenser les atouts des Françaises en tant que ETI, mais vous relatez dans votre ouvrage des réussites d'une trentaine d'entreprises, dont quelques-unes sont, enfin un certain nombre sont néanmoins émergées. Et donc, comment reprendre ces exemples et quels sont les exemples qui vous ont pu se marquer, à l'exception peut-être de votre propre réussite.
Le radial qui est cité, ouais, effectivement, ouais, dans le livre. Non, je ne voulais pas que ce soit un livre strictement gatasse, puisque c'était un livre que je voulais collectif. Et j'ai demandé à 30 de nos entreprises, de notre association ASMEP ETI, parce que notre association ASMEP, des moyennes entreprises patrimoniales, s'est transformée en 68 en syndicat des ETI, ipso facto, à la demande d'ailleurs du gouvernement, si bien que nous sommes les représentants officiels de cette catégorie d'entreprises. J'ai donc demandé à 30 entreprises ETI de notre syndicat ETI, pas choisies parmi les meilleures, mais parmi les plus proches, de raconter leur histoire d'ETI, c'est-à-dire comment ils ont été créés, comment ils ont grandi, quels ont été leurs succès, leurs difficultés, leurs réussites, une véritable histoire vivante d'une ETI vivante. Alors c'est vrai que ça donne à ce livre un caractère très vivant.
Absolument.
Tout le monde le reconnaît. Alors, lesquels choisir? Je ne veux pas choisir des noms, parce que nous avons volontairement choisi des entreprises performantes, bien sûr, mais également dans différentes branches, dans différentes activités, dans l'industrie, puisque nous avons beaucoup d'industries dans les entreprises de taille intermédiaire, beaucoup plus que dans les autres catégories, mais également dans le tertiaire, et puis géographiquement dispersées, parce que les entreprises en particulier, lorsqu'elles ont gardé le caractère patrimonial, sont très souvent des entreprises régionales, qui font d'ailleurs la richesse d'une région, parce qu'elles font l'emploi d'une région, elles sont très demandées régionalement, c'est la richesse d'une région, et d'autant plus qu'elles assurent beaucoup leur pérennité, leur transmission, surtout depuis que nous avons pu, à ce moment-là, faire changer, vous le savez, les règles de transmission, la fiscalité de transmission, qui était totalement confiscatoire depuis 20 ans, et nous avons pu faire changer cette inhibition, et aujourd'hui, les entreprises patrimoniales ou familiales peuvent enfin se transmettre, donc se pérenniser.
Alors, justement, sur ce point, l'entreprise patrimoniale et familiale, alors déjà, dans le prolongement de ce que vous venez de développer, vous avez créé un grand prix annuel de l'entreprise patrimoniale et familiale. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot, ça se passe comment enfin?
Alors, nous avons créé ça en 2000, c'est-à-dire il y a déjà 10 ans, et nous remettons tous les ans le prix de la meilleure entreprise patrimoniale ou familiale avec l'accord d'une banque suisse qui finance cette opération. Et ça marche très bien. Alors, celui qui remporte le prix en est très fier. Il y a généralement un grand prix et deux autres prix spécifiques, qui ne sont pas appelés second et troisième, deux autres prix.
Prix spéciaux du...
Par bonheur, tous les gens que nous avons primés depuis 10 ans, c'est-à-dire une trentaine d'entreprises patrimoniales, ont toutes bien réussi. Nous n'avons pas eu de naufrage de ces primés, ce qui est quand même important, ce qui prouve que ces entreprises durent, perdurent, sont efficaces. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'y reviens avec insistance, elles sont généralement innovatrices, toutes celles qu'on a primées, elles sont toutes exportatrices, n'est-ce pas? Nous, ces seules ETI assurent plus de 30% de l'exportation française, ce qui surprend tout le monde parce qu'on dit « mais non ». On croyait que c'était les très grandes qui faisaient l'exportation française. La vérité, les très grandes exportent beaucoup, mais surtout, elles sont surtout implantées à l'étranger. D'accord. Donc, ce n'est pas du chiffre d'affaires transfrontière.
C'est ça.
Dans le chiffre d'affaires transfrontière, nous avons une place prédominante. De même, dans l'innovation, nous sommes prédominants. Et rien que les ETI, en France, assurent 21% de l'emploi salarié. C'est vous dire que en étant relativement peu nombreuses, car elles sont peu nombreuses, il faudrait qu'on soit le double, comme dit le président Sarkozy, avec 4600, nous avons une place déjà prépondérante dans l'économie française. Si nous faisons des efforts, si on arrive à les faire se multiplier, nous aurons la place du Mittelstand allemand, qui a place prépondérante dans l'économie allemande.
Alors le grand intérêt de ce que vous développez, c'est effectivement qu'aujourd'hui, il semble que ce soit un projet collectif et que les pouvoirs publics vont être partenaires actifs dans cet objectif.
Tout à fait.
Alors toujours pour rester sur ce sujet de l'entreprise patrimoniale et familiale, et en particulier donc ce qui est une caractéristique souvent des ETI, est-ce que vous pensez qu'on revient dans un capitalisme qui est en train de se chercher dans le prolongement de la crise? Est-ce que vous continuez de penser que le capitalisme familial est une forme de réponse aux défis d'aujourd'hui?
Contrairement à ce qui a été cru pendant longtemps, n'est-ce pas, c'est un capitalisme durable, pérenne, qui voit à long terme, n'est-ce pas? Il y a eu cette contestation des anglo-saxons, vous vous rappelez, avec la théorie de l'agence. En 1932, les deux anglo-saxons, Berles et Mins, repris après par James Burnham, ont laissé cette théorie de l'agence où, si vous voulez, il fallait avoir des managers. Il y avait à l'époque, disait-il, incompatibilité entre l'avoir et le savoir, entre le pouvoir et la propriété. Bon, tout ceci, c'était de très belles images reprises en 64 avec Volubilité par Galbraith dans le Nouvel État Industriel. Et puis, brutalement, on s'est aperçu que ce n'était pas si vrai que ça, que des managers étaient quelquefois décontractés, quelques-uns à l'étranger avaient été malhonnêtes, avaient spolié les familles, etc. Et que, contrairement à ce qu'on avait cru, il pouvait y avoir dans les descendants familiaux quelquefois des gens de qualité qu'on avait volontairement éliminés. C'était un peu la réhabilitation de l'actionnaire, si j'ose dire. C'est le rapport Cadbury des mêmes anglo-saxons qui ont fait amende honorable et le rapport Vienno en France. Et aujourd'hui, il y a une reconnaissance forte, constante, des entreprises patrimoniales ou familiales. Je rappelle la différence, les patrimoniales sont tout simplement, au sens large, les entreprises où les dirigeants ont une part significative du capital, c'est-à-dire les entreprises personnelles, les entreprises familiales stricto sensu, et puis les entreprises d'associés non parents, qui ne veulent pas être appelées familiales. Il y a 2, 3, 4 actionnaires propriétaires, ils ne sont pas familiales du tout. Alors je sais bien que l'expression américaine « family business » a été étendue un peu trop largement. Nous préférons le mot « patrimonial » qui est plus précis.
Donc, une croyance, toujours une conviction à l'entreprise familiale. Chapitre 5, vous dites « l'ETI, prochaine frontière de la convergence économique franco-allemande ». Alors, vous rejoignez là le grand développement de l'Europe. Quoi.
C'est un texte de Christian Stoffes, qui est un grand spécialiste de l'Allemagne et qui milite depuis longtemps pour le rapprochement des économies allemandes et françaises. Il a raison. Sa femme, Mme Stoffes, a joué également un rôle très important dans cette convergence, comme vous le savez. Donc, c'est des gens de haute qualification. Et je pense qu'ils ont tout à fait raison. C'est pourquoi j'avais sollicité son témoignage, compte tenu de sa qualité. Et lui, s'est convaincu depuis très longtemps, très, très, très longtemps, que le duo franco-allemand peut faire une économie du centre de l'Europe très forte. Il a raison. Mais aujourd'hui, malheureusement, vous avez vu que la différence s'accentue entre les résultats allemands et français. Il n'est pas impossible que le nombre réduit de nos ETI par rapport au nombre de membres du Mittelstand y soit pour quelque chose. Car les meilleurs agents économiques actuels de l'Allemagne, c'est bien ce Mittelstand qui est très productif, très performant, très exportateur et qui équilibre bien la balance commerciale allemande. Et si nous sommes persuadés, là je suis d'accord avec le président de la République, si nous oublions le nombre d'ETI et qu'on passe à 9 ou 10 000, nous sommes persuadés qu'une grande partie des faiblesses économiques françaises seraient résolues.
Donc le grand défi français. Eh bien, chers auditeurs, c'était le témoignage et la conviction renouvelée du président Yvon Gattaz, qui vient donc de faire paraître chez François Bourin, éditeur, les ETI, champions cachés de notre économie, 30 histoires d'entreprises de taille intermédiaire, un ouvrage de 150 pages pour 25 euros, qui déjà a reçu un accueil très remarqué par tous les publics. Merci à vous, cher président.
Non, oui.
Merci.